Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, qui a intérêt à déstabiliser l'Europe ? Ce devait être un coup d'éclat, ce fut plutôt un coup d'épée dans l'eau. Le sommet qui devait réunir la semaine dernière à Jérusalem le Premier ministre israélien et ses homologues hongrois, slovaques, tchèques et polonais n'a finalement pas eu lieu. Faute de représentant polonais, Varsovie n'ayant pas apprécié qu'on lui rappelle son rôle dans l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour autant, cette initiative en dit long sur la façon dont certaines puissances étrangères considèrent aujourd'hui le vieux continent. Car inviter des membres de l'Union européenne dans une ville, Jérusalem, qu'elle ne reconnaît pas comme capitale, et adresser cette invitation au groupe de Visegrad, ces pays d'Europe centrale très critiques à l'égard des politiques européennes, voilà qui ressemble à minima à une provocation. Alors les Israéliens sont loin d'être les seuls à se prêter à ce petit jeu. Donald Trump y excelle, jamais en retard pour appuyer sur les divisions entre les 28, par exemple en organisant récemment en Pologne une conférence consacrée à l'Iran. La Russie, elle, est pointée du doigt pour ses tentatives de déstabilisation des rendez-vous électoraux. Alors est-ce à dire que c'est l'affaiblissement de l'Europe qui est recherché, voire la remise en cause profonde du projet politique qui la fonde ? Qui a intérêt à déstabiliser l'Europe ? On en discute ce soir avec trois invités. Éric-André Martin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargé de mission auprès du directeur de l'IFRI. Oui. L'IFRI, c'est l'Institut français des relations internationales. Vous êtes spécialiste de la politique européenne et des relations internationales de l'Union européenne. Pour discuter avec vous, Frédéric Ancel, bonsoir.
Bonsoir.
Géopolitologue, maître de conférence à Sciences Po Paris, professeur à la Paris School of Business. Vous avez publié récemment votre dictionnaire géopolitique au PUF et va sortir d'ici quelques jours l'édition augmentée. Ce sera début mars. C'est toujours au PUF dans la collection Quadrige et ça a gardé le même titre, c'est normal. Donc, mon dictionnaire géopolitique. Et puis, notre troisième invité, elle est au téléphone depuis Washington aux États-Unis. Il s'agit de Célia Belin. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, chercheuse invitée à la Brookings Institution de Washington, membre du Centre sur les États-Unis et l'Europe. Et vous avez publié en 2016 aux éditions du CNRS « Les États-Unis dans le monde ». Je vais commencer avec vous, Célia Belin, puisque vous êtes aux États-Unis et que l'Europe, l'Union européenne, s'apprête à organiser des élections. Ce sera à la fin du mois de mai. Est-ce que c'est un scrutin qui est susceptible d'intéresser la vie politique américaine ?
Alors, le scrutin intéressera les Américains à peu près une demi-journée la veille du scrutin, puisque en général les sujets ayant trait à l'Union européenne intéressent peu, y compris dans les think tanks, y compris dans les endroits universitaires. En revanche, cette année, il y a un intérêt un peu plus accru parce qu'il y a un intérêt sur l'avenir de l'Union européenne, non seulement à cause du Brexit, aura lieu ou n'aura pas lieu au mois de mars, et de cette relation spéciale entre les États-Unis et le Royaume-Uni, mais également à cause de ces montées de mouvements nationalistes populistes en Europe qui ressemblent à un parallèle avec ce qu'ont vécu les États-Unis à travers l'élection de Donald Trump. Donc là, il y a un petit intérêt supérieur. Simplement, je dirais qu'il y a quand même une assez grande incompréhension de la structure même de ces élections européennes. Qui va voter? Pourquoi? Qu'est-ce que ça va donner? Quel est le résultat important? Les États-Unis, tout comme leur président, je dois dire, tout comme Donald Trump, sont entièrement focalisés sur les États-nations, sur l'Allemagne, sur la France, sur le Royaume-Uni, beaucoup plus que sur Bruxelles ou l'Union européenne qui comprennent mal.
Ça vous étonne, Éric-André Martin, que les États-Unis et Donald Trump en particulier se focalisent davantage sur les États-nations plutôt que sur le projet politique global et, disons, multilatéral qu'est l'Union européenne ?
À vrai dire, pas tellement, mais je crois que la question, c'est de voir aussi, puisque vous avez posé la question de savoir si ça intéresserait les Américains, la question, c'est de savoir si ça va aussi intéresser les Européens. Parce que les élections au Parlement européen sont traditionnellement caractérisées par des taux d'abstention élevés. Et en 2014, je crois, c'était particulièrement marqué. Et donc, une des questions, un des enjeux liés à cette élection sera de savoir si les électeurs européens dans les différents États membres vont se mobiliser.
Et à partir de là, il faut bien dire d'ailleurs que même s'ils se mobilisent, ça rejoindra sans doute aussi finalement l'approche américaine de ces élections, c'est-à-dire c'est en général sur des considérations nationales davantage que des considérations européennes. Ça en prend le chemin en tout cas en France pour l'instant.
Tout à fait, et c'est un autre élément effectivement à prendre en compte. Alors, dans ce contexte-là, évidemment, la question du rôle du Parlement européen et devient un peu malheureusement secondaire dans ces ordres de préoccupation. Or, c'est bien de cela dont il s'agit. Et ce dont il s'agit également, c'est de savoir si ce Parlement européen aura une majorité capable de aussi d'agir. Et on sait aussi qu'un des enjeux indirects de ce scrutin sera aussi la désignation du président de la Commission européenne potentiellement.
Frédéric Ancel.
Oui, j'ai envie de vous dire qu'on est là déjà dans le vif du sujet. Et j'ai presque envie d'ajouter que, au-delà des considérations américaines, puisque Trump n'est pas un européanophile convaincu, c'est le moins qu'on puisse dire, mais de façon générale, les États-Unis, je pense qu'on y reviendra, et je parle sous le contrôle de Célia Belin, n'ont jamais été extrêmement enthousiastes à voir l'Union européenne, en tout cas devenir une véritable puissance globale, c'est-à-dire non seulement économique, mais aussi politique. On pourra peut-être y revenir avec notamment le soutien pendant très longtemps des États-Unis à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, notamment pour tenter de gêner la cohésion européenne. Maintenant, vous avez dans votre présentation, Hervé Gardette, vous avez prononcé le terme de division. Mais je crois que les premiers à souhaiter entraver, endiguer la construction européenne, ou en tout cas la freiner, à tout le moins la freiner, ils sont européens. On est aujourd'hui sur un clivage qui n'est plus un clivage droite-gauche, un clivage libéral, social-démocrate, un clivage lié à des considérations économiques et sociales, mais on est sur un autre clivage, en tout cas d'une autre nature, j'allais dire beaucoup plus dramatique au sens étymologique du terme, c'est-à-dire beaucoup plus grave, entre ceux qui souhaitent la poursuite de l'intégration de et dans l'Union européenne, quelle que soit d'ailleurs la nature de son évolution, et ceux qui notamment à l'Est, mais plus seulement à l'Est de l'Europe, on va je pense y revenir, souhaitent sinon la fin de l'entreprise européenne, en tout cas la fin d'un processus d'évolution qui va quand même toujours vers plus d'Europe. Et je crois qu'aujourd'hui, la véritable question, elle est là, et les élections du printemps vont effectivement, de ce point de vue-là, être absolument cruciales.
Donc quand on pose la question qui a intérêt à déstabiliser l'Europe, Éric-André Martin, un des éléments de réponse, c'est certains des pays membres de l'Union européenne.
Alors, il faut s'entendre sur ce qu'on peut appeler déstabilisation. Le point, c'est qu'effectivement, il y a une vraie discussion maintenant, comme l'a très bien dit mon collègue, c'est la discussion porte sur le sens qu'on va donner au projet européen. Et jusqu'ici, effectivement, c'était un sujet qui était consensuel. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Et donc, le premier facteur de division est évidemment un facteur interne, parce que en politique internationale, vous ne pouvez pas rayonner à l'extérieur si vous n'avez pas un projet politique national fort, articulé autour de valeurs et qui fasse consensus. Et aujourd'hui, le fait nouveau en Europe, en tout cas qui sera à travers ces élections, ce sera bien celui-là.
Est-ce que vous diriez, Célia Belin, que ces divisions qui existent au sein de l'Union européenne, elles arrangent en partie et elles sont peut-être aussi alimentées plus ou moins directement par l'administration de Donald Trump? J'évoquais là aussi en tout début d'émission ce sommet qui a eu lieu, cette conférence qui a été organisée en Pologne sur l'Iran, sur la place de l'Iran et son rôle au Moyen-Orient, par les États-Unis, avec notamment le secrétaire d'État américain qui s'est déplacé. C'était quand même une façon de pointer ce qui peut être un élément de division chez les Européens, sachant que officiellement l'Union européenne a critiqué, s'est opposée au fait que les États-Unis sortent de l'accord nucléaire iranien.
Alors, il faut peut-être rappeler un petit peu le soutien historique des États-Unis à l'intégration européenne, même s'ils ont eu tendance à privilégier un modèle, comme l'a rappelé Frédéric Ancel, qui était plutôt un modèle d'élargissement, une Union européenne toujours plus grande pour aller toujours plus vers l'Est, pour faire barrage à l'Union soviétique puis la Russie, mais une Union européenne qui était aussi un grand marché pour les produits américains, qui était un pôle de stabilité et de prospérité sur lequel les États-Unis pouvaient compter, mais qui n'était pas une Union européenne puissante, une Union européenne qui pouvait leur faire concurrence. Donc les États-Unis soutenaient un certain modèle d'intégration de l'Union européenne, et je pense que ça, on le retrouve encore un peu, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a aujourd'hui au pouvoir aux États-Unis des nationalistes américains dont le mot d'ordre est « America first », l'Amérique d'abord, et donc qui font privilégier les intérêts américains Or, dans la vision de Donald Trump, mais pas seulement dans la vision également de son équipe, des gens qui l'entourent, l'Union européenne, comme Donald Trump le dit, a été créée pour take advantage, pour prendre l'avantage sur les États-Unis. En tout cas, ils considèrent l'Union européenne comme un concurrent économique avec lequel il faut contre lequel il faut se battre, mais également des alliés qui pèsent lourd et qui coûtent cher pour ce qui est de la défense du territoire européen lui-même. Et donc, Donald Trump a beau jeu de répéter que les États-Unis sont le grand contributeur de l'OTAN, tandis que les Européens ne dépensent pas assez d'argent pour leur propre défense. Et c'est ces deux grandes critiques-là fondamentales qui est à la fois les Européens sont trop puissants économiquement, ou en tout cas ne nous aide pas sur le front économique, et puis par ailleurs il nous coûte très très cher sur le front de la défense, qui sont au cœur du nationalisme américain qui veut prendre ses distances, qui exige désormais des Européens qu'ils redépensent de l'argent pour leur défense, qu'ils ouvrent leur marché davantage aux produits américains, et puis qu'ils suivent sans protester lorsque les États-Unis prennent des décisions, par exemple sur l'accord nucléaire iranien.
Un nationalisme américain qui veut prendre ses distances, ou dans le cas d'un ancien conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, qui cherche aussi peut-être justement à fédérer la montée des nationalismes au sein même de l'Union européenne. Steve Bannon, donc, qui est en tournée depuis quelques temps, en essayant de rassembler, de faire élire, c'est son projet, un maximum de députés nationalistes d'extrême droite. Écoutez-le, il s'exprimait, c'était il y a quelques mois de cela, sur Euronews, nous étions en mai 2018.
Vous avez évoqué un splendide nouveau monde. Pouvez-vous définir les contours de ce que sera l'Union européenne d'ici 10 ou 20 ans ?
Ce sera une addition de nations.
Donc plus d'Union européenne ?
Non. Je pense que l'Union européenne sera toujours là. Mais disons qu'elle était en voie de devenir comme les États-Unis. Des États-nations ont en quelque sorte abandonné leur statut de nation pour faire partie d'une sorte d'organisation stérile. Ce que l'on aperçoit aujourd'hui, c'est premièrement que grâce au populisme, les gens auront beaucoup plus de contrôle sur leur souveraineté. Grâce au nationalisme, il y aura un ensemble de nations solides. Nous aurons une Hongrie robuste, une République tchèque, une Allemagne, une France robuste. Et je trouve ça formidable. Je pense que les gens auront davantage de contrôle direct sur leur pays.
Voilà Steve Bannon qui dit qu'il n'est pas contre l'Europe, mais qu'il est plutôt contre le projet politique de l'Union européenne. Frédéric Ancel, on voit bien qu'il y a même, là, il y a des tentatives, il y a des alliances qui se nouent. Alors, certes, ça n'est qu'un ancien conseiller de Donald Trump, mais manifestement, il a un peu d'entre-gens.
Ah oui, et puis il plaît, notamment à l'Est. Hein, il plaît beaucoup en Hongrie, il plaît beaucoup dans les pays baltes, il plaît en Pologne, c'est-à-dire des États qui sont entrés en 2003-2004 au sein de l'Union européenne, entrant en réalité dans l'OTAN. Et moi, je me souviens d'un débat, d'un colloque international tenu au Sénat en 2003, où Geremek, qui était à l'époque ministre polonais, alors francophone parfait, donc il connaissait le poids des mots, et à l'époque, le président Chirac avait été extrêmement sévère vis-à-vis de ces gens-là, qui avaient soutenu la guerre de Bush-fils en Irak. Et Geremek nous disait, lors de ce colloque, mais vous ne vous rendez pas compte, ici en Europe de l'Ouest, que pour nous autres voisins de la Russie, l'Union européenne, c'est la prospérité, mais l'OTAN, c'est la survie. Et ça m'avait beaucoup marqué parce que depuis, on a affaire, quel que soit d'ailleurs, je dois dire, les colorations politiques des gouvernements à l'Est de l'Europe, ils n'ont pas toujours été nationalistes comme c'est le cas aujourd'hui, notamment en Hongrie ou en Pologne, et on retrouve en réalité cette représentation d'un voisinage extrêmement dangereux avec notamment la Russie, et des États-Unis comme seul protecteur possible et crédible, beaucoup plus en tout cas que l'Union Européenne, y compris d'ailleurs que la France ou l'Angleterre, et certains vous rappellent systématiquement, ce qui est très désagréable, Munich en 38. Bon. Et donc, on est là aujourd'hui avec un Bannon, qui est un idéologue tout à fait assumé, qui joue bien évidemment là-dessus, et qui l'encourage. Mais j'ajoute quand même, si vous le permettez, que Barack Obama, qu'on ne pouvait pas soupçonner de nationalisme intégral, en voulait aussi aux Européens, en disant, mais enfin écoutez, chacun ne dépense pas suffisamment dans le cadre de l'OTAN, nous en avons assez, nous autres Américains, de payer pour votre sécurité, surtout lorsque certains d'entre vous, confère l'Allemagne, dépensent réellement très peu, tout en passant d'excellents accords économiques avec la Russie, dont ils prétendent devoir craindre un jour des menées offensives. Et quand on pense que les États-Unis ont exigé, mais Trump autant qu'Obama d'ailleurs, que chacun des États européens atteigne 2% hein, de son PIB respectif en dépenses militaires, enfin en budget de défense, pour continuer à pouvoir bénéficier du soutien américain, et que les Allemands ne sont qu'à 1.1 ou 1.2, et que les Allemands ne veulent pas aller plus loin, et que les États, la plupart des États européens, ne souhaiteraient pas voir l'Allemagne atteindre 2% de son PIB, qui est aujourd'hui géant au sein de l'Europe, on a affaire à un véritable nœud, vous voyez, un double paradoxe en quelque sorte.
Éric-André Martin.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Frédéric Ancel. J'ajouterais un point quand même, c'est que il y a ce discours sur le partage du fardeau qui est ancien au sein de l'Alliance Atlantique. Hein. Ce n'est pas une découverte de Trump, etc. Mais ça a pris une nouvelle acuité, je dirais, depuis l'administration Trump. Et je pense que c'est devenu une façon de quand même revoir le concept même d'alliance. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est reproché un peu aux Européens, c'est un peu un comportement de passager clandestin en économie. C'est-à-dire qu'ils ont profité des dollars dépensés par le contribuable américain pour bénéficier de cette sécurité. Et qu'en même temps, ils ont, et c'est surtout vrai pour l'Allemagne, ils ont accumulé des excédents commerciaux vis-à-vis des États-Unis. Et on veut quelque part, enfin l'administration Trump veut quelque part les punir, en tout cas avoir une compensation par rapport à cet argent qu'ils considèrent comme presque indûment gagné, si je peux m'exprimer ainsi.
Mais est-ce que vous considérez que les Européens se rendent compte justement de ce délitement progressif de la relation entre les États-Unis et l'Europe? Je voudrais juste vous citer, après je vous laisse répondre, Éric-André Martin et aussi Célia Bellin, l'extrait d'un éditorial de Christian Markarian dans l'Express, édito assez récent. Il dit notamment ceci: les grands leaders de l'Europe adoptent des stratégies qui ne sont pas proportionnées à l'ampleur des bouleversements en cours. Angela Merkel notamment rappelle fermement que l'équilibre international ne devrait pas varier, comme si le discours trumpien n'était qu'un mauvais moment à passer. Est-ce que ça n'est pas peut-être ça une des erreurs aujourd'hui des Européens, de penser que c'est un mauvais moment à passer, Trump, mais qu'une fois qu'il sera parti, tout redeviendra comme avant?
Les Européens, ça dépend quel Européen parle. Je suis d'accord que du côté de l'Europe de l'Est, la garantie américaine, c'est quelque chose de crucial.
Je pensais plutôt à l'Europe de l'Ouest.
Et alors justement, d'Europe de l'Ouest, les choses ont un peu bougé, puisque finalement, on se rend compte qu'avec le départ avec le Brexit et le départ du potentiel militaire britannique, c'est quand même un changement important qui se passe. Et on voit que le président français a beaucoup poussé en avant l'idée d'une armée européenne. On voit que la chancelière le rejoint sur ce sujet. On voit que potentiellement, il y a d'autres pays qui sont prêts à dépenser un peu plus sur des projets d'armement au niveau européen. Alors, la question, c'est de savoir si ça sera suffisant et si, en cas de crise ou de menace, ils ne vont pas tous plutôt se retourner vers l'achat d'équipements américains ou privilégier toujours la garantie américaine. Mais je pense qu'on est dans un moment de bascule au niveau d'un certain nombre de décideurs qui ont intégré ce changement de données. Et en tout cas, quelle que soit l'issue, je pense que beaucoup ont compris qu'il faudra de toute façon faire plus pour la défense maintenant.
Célia Bellin, vous partagez cette analyse, ce moment de bascule, il a été quand même plutôt bien analysé au sein de l'Union européenne?
Oui, absolument, je suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment, en particulier sur le fait qu'il y a quand même eu une continuité entre l'administration Obama et l'administration Trump sur le fait d'exiger des Européens qu'ils dépensent plus pour leur propre défense. Il faut se souvenir, le discours de départ du secrétaire à la défense Robert Gates en 2011, un de ses derniers discours à l'OTAN, où il martelait du poing sur la table en disant « les Européens doivent prendre en charge leur propre défense et augmenter leur budget de défense ». Et donc ça, on va retrouver ça avec l'élection d'un prochain président, peut-être en 2020, un président démocrate, ou en 2024, bien sûr. Et de toute façon, Trump ne variera pas de cette ligne. Et du côté européen, je pense que la question a été prise en compte, et même s'il y a des divergences encore très profondes entre la France et l'Allemagne, par exemple, ça fait partie des questions qui se poseront à l'avenir. Mais il faut bien voir que s'il y a des doutes sur l'implication des États-Unis en Europe, c'est aussi parce qu'il y a quand même une administration américaine qui est très particulière. Une administration américaine qui a des contradictions très très profondes entre les tweets de Donald Trump ou l'attitude de Donald Trump qui est pratiquement pro-russe, et puis les décisions du Congrès ou de l'administration qui sont par exemple très fermes ferme sur la question de la défense de l'Europe de l'Est. On a des contradictions très profondes dans les discours qui sont véhiculés, où on a à la fois une des plus grandes délégations américaines jamais vue qui s'est déplacée à la conférence de sécurité de Munich la semaine dernière, et dans le même temps, un discours qui est violemment anti-Union européenne, qui émane à la fois du président, du vice-président, du secrétaire d'État. Donc, ce qu'on peut imaginer s'il y a un changement de leadership aux États-Unis, ce n'est non pas une évolution de la trajectoire de fond qui va aller vers une prise de responsabilité des Européens qui est nécessaire et qui est demandée par les Américains, mais il y aura un changement de ton et un changement de discours, et ça, les Européens quand même le comptent dessus.
Ce sera déjà quelque chose.
France Culture, du grain à moudre, Hervé Gardette.
Et la question ce soir, qui a intérêt à déstabiliser l'Europe? Nous sommes en compagnie de la politologue Célia Belin qui est à Washington, d'Éric André Martin, chargé de mission auprès du directeur de l'Institut français des relations internationales, et du géopolitologue Frédéric Ancel. Alors je vous propose peut-être d'élargir un instant un petit peu la focale et d'évoquer aussi ce que représente l'Union européenne et les valeurs qu'elle porte, à la fois le projet politique, mais aussi les valeurs qu'elle porte à travers le monde autour. En tout cas, qu'elle tente de porter un modèle démocratique, libéral, très axé sur la question des droits de l'homme. Est-ce que la déstabilisation de l'Europe aujourd'hui, si tant est qu'il y en ait une, Frédéric Ancel, elle vient pas aussi de la remise en cause en profondeur de ce modèle de démocratie libérale par les États-Unis avec Trump, par la Russie, par la Turquie, par Israël aujourd'hui avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu? On a l'impression que ça vient de partout.
Peut-être même par le Brésil aussi, oui. Et en même temps, ça vient aussi de l'intérieur. Pardon d'insister là-dessus, mais si vous voulez, quand les Européens eux-mêmes, en tout cas une partie des Européens eux-mêmes ne s'entendent plus, vous avez évoqué vous-même tout à l'heure la démocratie illibérale revendiquée, tout à fait assumée par plusieurs gouvernements démocratiquement élus, autrement dit la population l'a voulu, et certains ont même été réélus par la population. Et comme disait Brecht, on ne dissout pas le peuple, hein. Vous pouvez dissoudre une assemblée, mais pas le peuple. Bon, il est bien évident qu'à l'extérieur, on commence parfois à ricaner, et dans les cercles diplomatiques ou militaires que je fréquente assidûment, si vous voulez, on nous renvoie très régulièrement ce qui se passe au sein même de l'Union européenne. Alors cela dit, pour rester sur l'étranger, vous avez raison. Je pense qu'un certain nombre de gouvernements de passage ou de régimes, ce qui est beaucoup plus, ce qui s'inscrit sur des temps plus longs, plus brodéliens, disons, considèrent que décidément les Européens sont très pénibles à donner des leçons de morale, de démocratie. Les Européens se sont, enfin l'Union européenne s'est constituée avant tout, rappelons-le, sur une régulation des rapports de force qui interdisait très strictement l'usage précisément de la violence. Bon, c'est pas mal, ça, globalement. Et ça a tenu au sein de l'Union européenne, si on accepte la Yougoslavie, qui est un cas tout à fait à part. Pour l'instant, ça tient. Et puis, effectivement, l'Union européenne s'est toujours faite fort de propager la démocratie à travers le monde. Oui, mais là encore, on nous pointe très souvent du doigt, ou on pointe du doigt les Anglais, ou les Français, ou d'autres puissances ici et là, mais surtout ces deux vrais puissant, je dis vrai, parce que la France et l'Angleterre et le Royaume-Uni se représentent encore chacune comme devant être de véritables puissances globales, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas des 26 autres, hein, ce qui est très intéressant. Donc, on nous reproche souvent, tout de même, d'avoir, de nous être, comment dirais-je, accordé la liberté d'intervenir ici ou là, notamment en Afrique, quand bon nous semblait, et d'ailleurs, pas toujours pour soutenir des dictatures, hein, je le dis d'un mot, dans quelques semaines auront lieu les célébrations du 25e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda. Bon, si vous voulez, en ce moment, un certain nombre de gens pointent du doigt ce qui fut la France de l'époque, et pourtant, l'Union européenne existait déjà. Vous voyez, donc nous sommes nous-mêmes dans un certain nombre de contradictions, mais oui, pour vous répondre très concrètement, l'Union européenne comme modèle aujourd'hui gêne un certain nombre d'États ou de gouvernements qui sont illibéraux, voire tout à fait autoritaires.
Le directeur de l'IFRI, Thomas Gomard, que vous devez bien connaître, oui. Éric-André Martin, dit ceci: les Européens vivent dans un monde qui sera de moins en moins à leur image.
Oui, ben c'est tout à fait aussi le sentiment que je peux avoir. C'est l'idée, c'est que on assiste dans le monde à une poussée de gouvernements, je dirais un peu nationaux autoritaires. On voit là, vous avez cité le Brésil, on peut citer beaucoup d'autres de cas, la Turquie, etc. Et l'Union européenne, en tout cas les États de l'Union européenne, apparaissent un peu moins, je dirais, en phase avec certaines évolutions du monde. Ça ne veut pas dire qu'on n'attend pas les pays européens dans la défense d'un certain nombre de principes et de valeurs dans le monde, mais encore après, faut-il pouvoir les incarner. Et effectivement, il y a une division, là aussi nouvelle, qui s'installe en Europe autour des valeurs de la démocratie, de l'état de droit. C'est quand même, si on reprend un peu de recul, vous avez cité tout à l'heure, Frédéric Ancel, le moment de l'adhésion des pays d'Europe de l'Est à l'Union européenne. Il faut quand même bien se souvenir que cette adhésion s'est effectuée après une période de transition qui devait les amener à adopter les valeurs, normes, standards européens en matière pas seulement d'économie de marché, mais aussi d'état de droit. Et aujourd'hui, 15 ans après cette adhésion, il y a une remise en cause fondamentale et, je dirais, construite, réfléchie de ces mêmes principes. Alors effectivement, ça va affecter considérablement notre capacité à nous projeter à l'extérieur.
Est-ce que cette remise en cause des valeurs, cet affaiblissement en interne de l'Union européenne et ce délitement de la relation, notamment entre les États-Unis et l'Europe, ça se traduit par une disparition, ou quasi-disparition, Célia Belin, de ce que l'on appelle encore aujourd'hui, même peut-être avec davantage de prudence, mais le bloc occidental, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une cohérence aujourd'hui stratégique, disons, de ce que serait le bloc occidental?
Alors les experts aiment bien appeler ça aussi l'ordre libéral international, vous appelez ça le bloc occidental. Tout dépend de savoir si on met à l'intérieur un point de vue purement géopolitique en regardant l'aire géographique de l'Amérique du Nord et de l'Europe, ou si on regarde d'un point de vue aussi des valeurs et de ce qui est véhiculé, qui est notamment la promotion de la démocratie libérale. Et je pense que là, quand on pose la question, comme c'est le sujet de l'émission, de qui a intérêt à un affaiblissement de l'Union européenne, il faut voir qu'il y a évidemment deux grands rivaux géopolitiques, géostratégiques dans le monde, que sont la Russie et la Chine. Et eux, chacun de ces pays a un intérêt à cet affaiblissement, mais pour des raisons différentes. Je dirais que la Russie a fondamentalement un intérêt à l'affaiblissement du lien transatlantique. Quand les Américains se disputent avec les Européens sur les dépenses de défense, ou quand ils se disputent sur le pipeline Nord Stream qui est en construction entre l'Allemagne et la Russie actuellement, ou sur tout autre sujet qui implique, ou sur l'accord nucléaire iranien, tout cela favorise l'émergence, l'affaiblissement du lien transatlantique, et donc du point de vue russe, c'est quelque chose de positif. D'un point de vue chinois, l'intérêt est davantage dans l'affaiblissement de l'Union européenne, c'est avant tout l'affaiblissement des normes, du fait que l'Union européenne a très longtemps, avec les États-Unis, rayonné sur la scène internationale en véhiculant ses normes, les droits de l'homme, ses valeurs, la promotion de la démocratie libérale. Et tout ça est considéré comme évidemment une menace existentielle pour le régime chinois. Et donc, en voyant une Union européenne se recentrer sur elle-même, être engluée dans ses problématiques de Brexit, mais aussi de populisme, etc., les Chinois sont plus à même de diviser les Européens, de jouer sur leurs investissements en Europe pour peser sur un pays ou sur l'autre, à obtenir des votes qui vont dans leur sens, et donc, et surtout, éviter que les normes européennes et les normes démocratiques et libérales se répandent à l'échelle globale.
Éric Andrin-Martin.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est un point très important, car effectivement, un des éléments de rayonnement international de l'Union européenne a été la capacité à édicter des normes qui s'imposent dans le monde entier. Et cette capacité est aujourd'hui mise en cause par un certain nombre d'acteurs, et notamment en premier lieu la Chine, qui, par ses campagnes, de ses grands projets à travers les nouvelles routes de la soie ou ses investissements directs en Europe, tend à se présenter comme un peu un modèle alternatif qui, à terme, peuvent mettre en cause un certain nombre de normes européennes, notamment en termes de droit du travail, en termes environnemental, etc., et affaiblir cela durablement. Donc il y a un vrai enjeu de concurrence autour de ça. Et j'ajouterai un point, c'est qu'en plus, en matière de résolution des conflits commerciaux, etc., la tendance de plus en plus par la Chine est de mettre en place des organismes de règlement des conflits institués sur d'autres bases que celles que nous avons, et donc de soustraire cette capacité d'arbitrage aux normes aussi habituellement en vigueur à l'Ouest. Donc il y a beaucoup de il faut regarder ces sujets avec beaucoup d'attention, car là il y a un vrai enjeu.
Alors finalement, on a assez peu parlé depuis le début de la discussion de la Russie. Quand on parle de déstabiliser l'Europe, a priori c'était plutôt le premier pays auquel on pourrait être tenté de penser, même si Célia Belin en a dit un mot. Lors de cette conférence sur la sécurité à Munich, Frédéric Ancel, il y a le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, qui a dit « La Russie veut une Europe forte et indépendante ». Est-ce qu'il y a des raisons de douter de ce qu'il dit ?
C'est-à-dire indépendante de qui ? Des États-Unis, oui. Célia Belin le rappelait il y a un instant, ça, bien sûr. C'est une évidence géopolitique et géographique, et d'ailleurs historique, tout à fait assumée là encore. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point...
Est-ce que la Russie a besoin d'une Europe forte ou d'une Europe faible ?
Ah, moi je pense qu'en tant que puissance globale, non, je pense que la Russie craint l'Europe puissance globale. Parce qu'elle considère, à juste titre d'ailleurs, que malgré tout, cette Europe resterait dans ce qu'on appelle peut-être plus, à tort ou à raison, le camp occidental, avec des valeurs et des normes qui ont été rappelées, qui quand même ne correspondent pas pour l'essentiel à la Russie. Mais la Russie tente de jouer à l'Est, notamment, sur... Alors, je vous parle pas d'un certain nombre de menées dans les scrutins électoraux à l'Ouest, mais joue sur des gouvernements à l'Est qui sont relativement favorables à la Russie en tant que, allez, j'allais dire, frère nationaliste, en quelque sorte. Hein, je pense évidemment au gouvernement hongrois, par exemple. Mais la Russie a besoin notamment de pays baltes faibles, pas trop soutenus par les États-Unis, d'une Pologne relativement faible, puisqu'on voit bien que les représentations géopolitiques entre les Baltes et les Russes, d'une part, entre les Polonais et les Russes d'autre part, notamment sur la question de l'Ukraine, hein, pour ce qui concerne la Pologne, sont totalement antinomiques. Enfin, on a affaire à des pays qui sont en voie d'affrontement diplomatique, sinon pire un jour ou l'autre. Donc, effectivement, je pense que la Russie souhaite une Europe indépendante, morcelée, indépendante des États-Unis et dont l'Est ne serait pas rivé de manière hostile à ses frontières.
Alors, on n'est pas au même niveau de puissance, mais il faut dire aussi un mot d'Israël et de son premier ministre Benjamin Netanyahou. Donc, je le disais la semaine dernière. Un sommet qui devait avoir lieu avec les pays du groupe de Visegrad, c'est-à-dire la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la Pologne. Trois de ces premiers ministres sont venus, sauf le polonais. Il y a eu des rencontres bilatérales, la Pologne étant fâchée, disons, avec Israël suite à certains propos lui rappelant sa responsabilité dans l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, ce sommet n'a pas eu lieu, il aura peut-être lieu un petit peu plus tard, finalement, avec les quatre. Mais alors, à quoi ça sert un tel sommet, Frédéric Ancel, pour le Premier ministre israélien? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il cherche à faire en invitant quatre des pays, on va dire, les plus critiques par rapport à ce que peuvent être les politiques européennes aujourd'hui, à Jérusalem?
Ah bah, usage interne, Netanyahou souhaite bien évidemment continuer de montrer à sa population qu'il constitue un formidable bouclier, en même temps un booster de puissance. C'est-à-dire un bouclier face à des pressions. On l'a vu avec Obama pendant 8 ans. Enfin, il a écrasé au point Barack Obama, Netanyahou. Enfin, c'est les choses sont claires. Il s'entend très bien avec Poutine. Il a mené une offensive diplomatique en Afrique et en Asie centrale absolument réussie. Donc ça, juste avant des élections qui auront lieu début avril, on comprend bien ce que Netanyahou essaye de faire.
Et l'usage externe par rapport à l'Union européenne. Alors, est-ce qu'il y a une tentative là aussi d'embarrasser ou de réorienter peut-être la politique étrangère européenne, notamment sur la question palestinienne?
Alors moi je ne le crois pas. Je crois que c'est au coup par coup. C'est-à-dire que plus Netanyahou obtient de soutien de tel ou tel État, sur des considérations d'ailleurs différentes, hein, Bolsonaro parce que c'est un évangéliste, Monsieur Trump parce que décidément il est dans l'axe sunnite, et puis il souhaite d'ailleurs les voix des évangélistes aussi dans 2 ans quand même. Hein. Donc transférer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, ça fait sens d'un point de vue électoral. à l'interne. L'Inde, c'est encore une autre question. C'est le Pakistan et l'islamisme qui constituent l'ennemi des deux pays, etc. À chaque fois que Netanyahou peut démontrer à sa population qu'il obtient un nouvel ami ou un nouvel allié, qu'il soit européen ou pas d'ailleurs, hein, c'est quelque chose qui, bien évidemment, va se traduire, d'après lui, dans les urnes. Mais c'est aussi l'illustration, ce sommet de Visegrad à Jérusalem, c'est comme l'illustration de l'absence de politique globale européenne. Pensez bien que sur le Proche-Orient, et je vous donne simplement un chiffre, c'est un fait, sur la question israélo-palestinienne, l'Union européenne vote systématiquement, vous m'entendez bien, systématiquement, tant à l'Assemblée générale des Nations unies qu'au Conseil de sécurité des Nations unies, lorsqu'il y a donc plusieurs États européens, à commencer bien sûr par Paris et Londres, vote systématiquement sur les trois positions possibles. Oui, abstention et non. Pour abstention et contre. Vous vous rendez bien compte que de ce point de vue-là, et c'est vrai d'ailleurs pour d'autres théâtres d'opérations diplomatiques dans le monde, mais sur le Proche-Orient, alors c'est absolument flagrant, et je vous dirais que les 10 États, alors Malte étant un cas un peu à part, disons les 9 États continentaux de l'Est ayant rejoint en 2003-2004, sont à des degrés divers très favorables à Israël pour trois raisons. Un, ils ne dépendent pas du gaz et du pétrole en provenance d'États arabes, puisqu'ils achètent russes, ce qui ils n'en sont pas d'ailleurs un paradoxe près. Deux, ils n'ont pas, sauf la Bulgarie, mais dans un cas tout à fait à part, deux populations musulmanes chez eux. Donc les gouvernements ne considèrent pas qu'ils subiraient des pressions s'il y avait des musulmans. Bref, ils peuvent faire la politique qu'ils veulent avec Israël en tout cas selon eux. Et trois, ils pensent de manière un petit peu fantasmatique d'ailleurs, il faut le dire, qu'à chaque fois qu'on fonctionne bien avec Israël, eh bien c'est un viatique excellent pour obtenir plus tard des soutiens à la fois économiques, financiers, politiques, voire militaires des États-Unis. Oui. C'est la raison pour laquelle ces États d'Europe orientale sont presque tous très favorables à Israël.
Éric André Martin, il n'y a quand même pas un socle commun qui reste aujourd'hui en matière de politique étrangère au niveau de l'Union européenne ?
Ben, disons que il y a quand même une position qui est défendue par la haute représentante, Federica Mogherini. Donc il y a une position officielle de l'Union européenne qui est une position, je dirais, classique par rapport à la question des Palestiniens et la possibilité de il y avait une des revendications, je crois, de dans le cadre de Visegrad, qui était de demander d'établir leur ambassade à Jérusalem. Donc c'était en violation avec la position qui est toujours défendue officiellement par l'Union européenne. Donc je pense qu'il y a un élément important, effectivement, c'est le par rapport aux États-Unis. Et je crois que si on prend l'autre exemple que vous avez cité en début d'émission, qui est la réunion sur l'Iran, je crois que
qui s'est déroulée en Pologne.
En Pologne, je crois que avec en plus bien sûr la présence israélienne, je crois que les Polonais attendaient beaucoup de cela, parce qu'ils espéraient un peu obtenir une contrepartie autour d'un engagement américain sur une base permanente en Pologne. Donc je pense que c'est aussi une façon de gagner des mérites ou des crédits en ayant une politique très proactive dans ce domaine. Alors, il faut bien constater que pour le moment, ils n'y sont pas parvenus, mais je crois que ça fait partie du calcul général. Et puis, une façon de montrer qu'ils sont indépendants, qu'ils ont leur diplomatie et qu'ils ne sont pas tenus à ce qui se fait à Bruxelles.
La question iranienne, et ce sera la conclusion, Célia Belin, ça c'est évidemment un des éléments importants du conflit qui peut exister aujourd'hui entre les États-Unis et l'Europe.
Oui, évidemment, les États-Unis, par la voix du vice-président Mike Pence, ont de nouveau fait savoir aux Européens qu'ils attendaient tout simplement que les Européens s'alignent sur leur position pour ce qui est de l'accord nucléaire iranien, ce à quoi les Européens, par la voix d'Angela Merkel et d'autres, ont répondu que bien sûr que non, c'est une question de souveraineté européenne, souveraineté des États européens que de choisir leur politique étrangère, y compris vis-à-vis de l'Iran. Mais je voulais revenir juste sur un point rapidement, c'est que ce qu'on voit se dessiner, c'est aussi une sorte de popularité de ce nationalisme israélien qui fait des émules intellectuelles non seulement aux États-Unis mais également en Europe, qui est une sorte de réaffirmation de la puissance de la nation israélienne et qui souhaiterait s'adapter à un mode à la fois pour les Européens plus concentré sur les intérêts de sécurité immédiat de ces pays-là ou les intérêts économiques immédiats de ces pays-là et qui fait partie de ces idées qui sont actuellement popularisées par l'extrême droite en Europe. Et donc c'est là où on voit un paradoxe avec une extrême droite européenne qui s'est rapprochée d'Israël très fortement sous Netanyahou.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Célia Belin, je rappelle que vous étiez à Washington. Et merci à vous, Eric André Martin, et à Frédéric Ancel. Donc, je rappelle votre dictionnaire géopolitique édition augmentée. C'est d'ici quelques jours. C'est au PUF dans la collection Quadrige. Cette émission, vous pouvez la réécouter, la télécharger sur franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Vous pouvez également nous écrire. Du Grain à Moudre, son équipe est composée de qui? De Fanny Richet, d'Antoine Tricot, de Virginie Ledeau, d'Antoine Dulster, de Cyril Marchand et de Peyre Legras à la réalisation, je les remercie, ainsi que Jacques Hubert à la prise de son. Il faut changer de temps en temps la façon de désannoncer les équipes, Arnaud Laporte. Pourquoi? Parce que ça met un petit peu de, comment dire, de fantaisie, vous voyez, dans les fins d'émission. La dispute,
je voulais chercher tous vos mots.
Mais à chaque fois que je vous regarde, les mots me manquent.
Voilà, je comprends bien. Ouais. Et on va parler de danse dans un instant, c'est votre corps qui sera sollicité. Oula. Hervé Gardette, la question du Grain à Moudre de demain quand même avant de quitter ce studio.
Et c'est votre esprit qui sera sollicité. Les banquiers peuvent-ils sauver la banquise? Allitération. Je vous laisse réfléchir.
Oui, non, je crois que je vois à peu près de quoi il s'agit. On sera évidemment à l'écoute. Pour l'heure, vous écoutez France Culture, il est 19h, les titres de l'actualité avec Guillaume Fariol.